Bonsoir à vous. Donc, je vous propose de commencer tout de suite cette rencontre avec Gaël Obiegli. Gaël Obiegli qui arrive directement de Rome pour venir au banquet, de Rome où elle est en résidence à la Villa Médicis. Donc, voilà. Gaël Obiegli, c'est une voix assez singulière dans la littérature contemporaine. On le dit de beaucoup d'auteurs, c'est parfois une formule usée, mais je pense que c'est réellement un terme qui s'applique à sa littérature. Alors, elle publie des romans, des récits, des essais littéraires. Je ne sais comment on peut qualifier ces textes qui sont assez inclassables, il faut le dire. Après des études d'art et aussi de russe, l'un n'ayant pas de rapport avec l'autre, elle publie son premier roman en 2000 chez L'Arpenteur, qui s'intitule, le titre était un programme à lui tout seul, je ne résiste pas au plaisir de le nommer, « Petite figurine en biscuit qui tourne sur elle-même dans sa boîte à musique ». Et ce titre, je crois, résume un peu ton écriture, ton univers. Voilà. Elle est également l'auteur, je cite deux, trois titres comme ça, d'un petit éloge de la jalousie qui est paru chez Folio en 2007. C'est aussi tout un programme, n'est-ce pas? En 2011, elle rejoint les éditions Verticales où elle publiera depuis deux titres, Le musée des valeurs sentimentales, donc en 2011, et donc son dernier livre qui s'intitule Mon prochain est paru en 2013. À propos de Mon prochain, Gaël écrit ceci, « On se constitue par l'observation de la vie des autres. On existe dans les creux, les vides, dans ce qui est laissé. De la même manière que je me glisse dans les vêtements dont personne ne veut plus, je choisis des voies insignifiantes, étrangères, celles qui mènent à l'inconnu. Mon prochain est un champ d'expérience. » Voilà, donc Gaël va lire de façon orale, en fait, un texte qu'elle a écrit spécifiquement pour cette soirée, en résonance avec le thème, qui sera entremêlé de passages de ce livre, Mon prochain. Voilà, merci beaucoup à toi.
J'ai l'impression que je ne fais pas partie du monde. Il est derrière une paroi. Si j'osais la percer, mais avec quels instruments? Si j'osais la percer, mais avec quels outils? Des tamas noirs, des éléphants, des guêpes géantes et d'autres créatures avec lesquelles je n'ai jamais été en contact s'élanceraient sur moi. Je n'ai pas vécu de catastrophe. Il m'arrive d'entrer dans des individus agenouillés sur les trottoirs de la ville. Il m'arrive aussi d'entrer dans des personnes figées au bord des chemins qui nous lient. Alors le monde vient en moi, il me dévaste, il m'éclaire en même temps. Le monde, comme un fantôme, passe par mes fissures. Sinon, je ne peux pas le sentir. Sinon, je suis inhumaine, j'ai la maîtrise. J'observe les gens ordinaires jusqu'à l'apparition d'un être qui tend la main, qui prononce une phrase inouïe, qui demande un service ou rien, qui, fluidement, vient me chercher par la fissure. Il y avait comme une léoparde qui se frottait aux vitres du Starbucks Café. Ça a commencé comme ça, je crois. Une femme que plus personne ne tutoie. Son visage plein d'oubli. Le temps ne va plus nulle part, il s'arrête. Il nous laisse nous reconnaître. On se mate comme des enfants. On chahute. Ça arrive avec mon prochain. Mais pas là, pas cette fois-là. J'étais tentée de faire des grimaces. Ce n'est pas aller au-delà du projet. Pourquoi, je ne sais pas. On n'est pas forcé de tout expliquer. On devrait du reste éviter de s'expliquer, voire refuser. Mon attention s'est tout à coup portée sur deux hommes, dont l'un était en tablier à bavette et sous une coiffe. L'autre a sorti des livres d'une musette et des tracts. Ils se sont donné un baiser, un seul. Ce sont des vieux étudiants, je pense. Ils se rencontraient au Starbucks Café pendant que l'un d'eux prenait sa pause de midi. Il est en période d'essai. Il est chargé de cuire les gâteaux. La semaine dernière, il en a laissé brûler, ça a gueulé. La direction lui a mis un avertissement. Au bout de 3 avertissements, c'est fini. C'est plus la peine de revenir. On vous renvoie. Naguère, je venais là pour voir une amie qui y travaillait, mon amie Gaëlle. On se parlait de part et d'autre du comptoir. Elle prétend que non, mais je crois que ça a été le motif de son licenciement. J'ai continué à fréquenter cet endroit par habitude. Celle qui remplace mon amie, c'est une étudiante, en chimie, je crois. Mon amie est chanteuse à l'entrée d'un zoo, par intermittence. Elle dit que c'est mieux. Mais quand je lui rends visite, comme elle chante, on ne se parle pas. Moi, je ne pourrais pas faire ça. Il faut être capable de s'exhiber, capable de ridicule, donc de sublime. Même taper dans mes mains pour l'accompagner, ça me gêne. Jongler avec des balles, je peux l'envisager, parce que le public ne vous regarde pas, il regarde les balles. Ou s'il vous regarde, vous ne le regardez pas, puisque vous regardez les balles. Mais c'est très difficile. Je joue assez bien au tennis, mais ça n'a rien à voir. Jongler nécessite plus de sagesse. Cette femme, qui a été embauchée à la place de mon amie, détient une liasse de fiches Bristol dans la poche de son tablier. Et de temps en temps, elle les consulte. À un moment, j'ai pensé qu'elle s'y reportait pour préparer comme il faut les boissons qui lui étaient commandées. En fait, non. Elle dispose d'un cahier de consignes qui lui indique les ingrédients, les proportions. Je pense que sur ses fiches, elle écrit tout ce que sa tâche lui ferait oublier. À sa place, je ferai pareil, je m'organiserai. Je noterai des réflexions sur des fiches, tout en préparant machinalement les cafés, sans état d'âme. Il ne lui vient pas de paroles mielleuses. Par certains côtés, elle ressemble à Gaëlle, qui, comme elle, regarde le client dans les yeux. Elle pose le truc, recommence, elle ne dit rien. Pas de bonne dégustation, monsieur, pas de bonne fin de journée, madame, pas besoin. Elle annonce des phrases qui sont peut-être des formules chimiques, des lois, un poème. On ne sait pas, nous. Justement, nous. Pour avoir assisté au cours des 10 dernières années à nombre de conférences, j'ai pu remarquer que les conférenciers les plus talentueux dans cette pratique, et quel que soit leur domaine, sont ceux qui, dès le départ, expriment une opinion, énoncent un concept, qu'ils vont ensuite répéter, confirmer, argumenter, afin de prouver la vérité de ce qu'ils affirment. Pour ma part, je ne dispose que de quelques théories loufoques que je n'exposerai pas ici. En tout cas, j'ai remarqué que c'est le public, par l'intensité, la durée de ses applaudissements, qui valide la présentation ou la prestation du conférencier. En cela, la conférence est bien plus démocratique dans sa forme et son pacte que n'importe quel écrit. Le conférencier tient sa valeur du public. Mais un conférencier face à un public clairsemé, voire réduit à 2 ou 3 personnes, ce qui va peut-être m'arriver, a plus de pouvoir que devant un public énorme. Face au nombre, paradoxalement, le conférencier ne fait pas le poids, à moins qu'il réussisse à enivrer son public, à établir une connivence. Et à propos de connivence, pour commencer, il faudrait s'interroger sur ce « nous » de la phrase « ce qui nous est étranger ». Le « nous » qu'emploient les conférenciers ou les essayistes est, la plupart du temps, un « nous » académique, un « nous » de pure forme. Il y a derrière « nous », derrière ce « nous », un postulat, c'est-à-dire une proposition que l'on demande d'admettre avant tout raisonnement. Et parce que c'est un postulat, le « nous » ne peut être mis en doute, bien qu'il ne puisse être démontré. Il suppose donc une connivence. C'est un « nous » qui inclut, qui fait enceinte, qui se distingue d'un dehors. Et au contraire, le « nous » de Nietzsche est un « nous » qui fait sécession, qui rompt, qui s'exclut de la majorité, qui désigne plutôt un tout petit groupe ou un groupe à venir, qui désigne, et en particulier dans Aurore, un duo. Quand Nietzsche dit « nous », il ajoute « moi et mon livre ». Il dit « nous » donc dans Aurore, particulièrement dans le prologue, à maintes reprises. Ce « nous » expose parfois une relation de domination, mais aussi un compagnonnage rêvé, un compagnonnage parfait, qui doit advenir. Mais il s'agit avant tout du compagnonnage de l'homme et de son livre, de l'homme et du pur langage. Dans la proposition « Ce qui nous est étranger », vous l'aurez compris, c'est en premier lieu ce « nous » de la phrase « qui nous est étranger ». Et mon « nous » se rapporte à moi et mon livre, ce livre qui est déjà écrit, enfin les livres déjà écrits et que on peut partager, mais aussi le livre avec lequel je vis, le livre qui est en train de se constituer. Il y a d'ailleurs une partie d'Aurore de Nietzsche qui m'a accompagnée alors que je pensais à cette phrase qui s'intitule « Ce qui est grec nous est étranger ». Et il est question des Grecs et de leur économie, mais pas de l'économie au sens où on l'entend actuellement, mais de l'économie de l'architecture. Il dit que l'architecture des anciens Grecs reflète leur âme par ses formes simples et massives. Et Nietzsche dit que nous autres, pour rendre compte de la disposition de nos âmes, nous devrions habiter des labyrinthes. La forme du livre dont je vous fais lecture ce soir s'attache à refléter une tournure d'esprit assez labyrinthique. Je considère, depuis que j'ai reçu cette phrase, je considère cette proposition, ce qui nous est étranger, comme le fragment d'un discours. Hors du contexte où elle aurait été énoncée, privée de ce qui l'aurait entourée, la proposition m'intrigue autant que la phrase modèle à partir de laquelle Gaspard, le héros de la pièce de théâtre de Peter Handke, dont je parlerai un peu plus tard, va apprendre à dire quelque chose de personnel. Et tout comme le Gaspard de Peter Handke, je me suis mise à comparer tout ce que je percevais à ce fragment de phrase, si bien que cette phrase est devenue un exemple. Dans des situations très diverses, cherché à l'expliciter en la mettant en rapport avec ma vie, en essayant de voir à quelles expériences elles pourraient se rapporter. Elles sont nombreuses. Et également à quelle actualité, non pas individuelle, mais à quelle actualité collective, elles pourraient s'appliquer. Telle quelle, c'est une phrase au présent qui ne risque rien, qui peut tout dire, qui est inconséquente d'une certaine façon. C'est un fragment de phrase qu'il faudrait insérer dans une mosaïque. Donc, j'étais dans un café, et on y retourne. Dans ce café, à un certain moment, en utilisant un couteau en plastique poisseux, j'ai ouvert 2 mois de courrier, qui n'était pas la conséquence d'une grève de la poste, mais de mon laisser-aller. D'une petite enveloppe bleue, j'ai extrait une lettre qui m'était adressée par le directeur d'un journal auquel il souhaitait que je participe. Mon thé s'est renversé sur la table où se trouvait, entre autres, la lettre à peine lue. Il n'en subsistait que quelques mots sur un lavis bleu et la signature, un numéro de téléphone aussi. Pendant que je composais ce numéro, un client s'est mis à pleurer. Alors j'ai raccroché. Il pleurait. Moi, je le regardais. Il cachait son visage. Je le regardais quand même. Il avait une paire de ciseaux posés près de lui, tout au bord de la table. Il pleurait d'avoir failli traverser Zidane au recto de la page qu'il découpait. Espérant un moment de tranquillité, quand elle lui avait proposé des découpages, sa grande sœur soupirait. Et puis son agacement a fait place à l'étonnement. Le client fixait une photo avec terreur. Sa grande sœur lui a saisi le poignet, lui a glissé les anneaux autour des doigts et elle l'a guidé. Épaule contre épaule, ils ont circulé autour de Zidane qui a échappé au massacre. D'ailleurs, lui, il l'a dit. Il a dit « on l'a sauvé ». J'ai vu qu'il y avait sur le médaillon comme des gouttes de pluie qui bouffissait le ventre de Zidane. C'était des larmes. Le client s'est mis à rire, sa grande sœur aussi. Pas moi, j'essayais de comprendre. Alors qu'il découpait un zèbre, il a découvert au recto de la feuille un portrait en pied de ce sportif auquel, innocemment, il avait déjà presque ôté un bras. Mais au profit de l'idole, c'est le zèbre qui a été massacré. Et sa jubilation, à présent, tient autant au malheur qu'il a empêché qu'à ce qu'il crée, une bête déformée. Finalement, c'est elle qu'il chérit, à laquelle il parle, parce qu'elle est sienne. Sans quitter des yeux mon prochain, j'ai épongé l'eau sur la table avec des mouchoirs en papier et ils sont partis. Le frère a suivi sa sœur en feignant de boiter. Je crois que c'était pour garder mon attention sur lui. Et une fois dans la rue, il s'est mis à courir comme il s'était mis à pleurer, puis à rire. Je suis restée devant ma table humide, devant mes papelards mous, jusqu'à ce que j'avise l'image découpée plus tôt dans un magazine. C'était sur leur table, parmi les déchets, et au pied d'une chaise, il y avait des pages éparses. Comme je n'avais pas grand-chose à faire, à part différer mon appel téléphonique au directeur du journal dont la lettre avait été anéantie par une vague de thé, j'ai entrepris de reconstituer le magazine morcelé. C'est en premier une image qui s'est présentée à moi. Sur la photographie, 3 hommes noirs parlent entre eux parmi d'autres hommes qui ont vu le photographe et qui s'offrent à lui. Au premier plan, un homme mort repose dans un cercueil. Contrairement aux autres qui participent à la représentation de la vie, le mort demeure là où il est. Le temps a passé, tandis que l'un persiste dans la mort, les autres ne sont peut-être déjà plus dans la vie. J'ai mis cette page de côté, ne sachant dans quelle rubrique la replacer. Au verso, sur une publicité pour des postes de télé, on voyait un chanteur sur scène. Comme si la terre s'était entrouverte, des mains se tendaient pour que le rocker les attrape, afin d'extirper les corps du monde bas, et le rocker vocalisait. Il vocalisait sûrement tout en survolant les floraisons de mains, et il envoie des baisers à la cohorte qui pleure, qui supplie, qui chante. Je crois que j'y étais à ce concert. Si jamais je parvenais à passer cet appel au directeur du journal, que lui dire ? Que lui dire si jamais j'acceptais sa proposition ? Sur quoi écrire ? Alors que jusqu'ici, je n'avais écrit sur rien, mais fait advenir un quoi ? Si j'écrivais sur ce que j'aime, ce serait ridicule. Écrire sur un bassiste punk, c'est ridicule. Un gothique, c'est ridicule. Elvis Presley, c'est ridicule. Bob Dylan, c'est ridicule. Mick Jagger, c'est ridicule. John Lennon, c'est ridicule. C'est ridicule d'en faire des sujets. C'est ridicule d'en parler par rapport à le vivre. Pas pareil, en tout cas. Je vois le monde plein d'explosions. Mais ça... Le directeur du journal, il ne pourrait rien en tirer. Des explosions de paroles, des explosions de corps, et on prend des photos. C'est à ce moment, quand il explose, que le monde, je le vois. Sinon, souvent, je l'échafaude, comme là. Il faudrait peut-être que je précise de temps en temps que de temps en temps, je levais la tête. J'abandonnais ce magazine épars dont j'avais entrepris la reconstitution. Je l'abandonnais pour regarder autour de moi. Il faudrait que je rappelle le contexte, la réalité où mes pensées viennent. Il faudrait que je fasse état de la situation. J'aime autant rester dans l'artifice. Dans la rue, les gens qui passent me font voir le colporteur de journaux. Mais sans rien me montrer. Ces gens qui s'écartent quand ils arrivent à sa hauteur. Sans doute, ils ont peur d'être touchés. Ils ont peur que quelque chose les touche. Vous vous imaginez, pensant désormais, nuit et jour, à ce qui vous a touché. Ça vous effraie. Lui, le vendeur de journaux, il se démène avec une gestuelle de boxeur et des bleus sur le visage. Il tend des deux mains ses journaux comme des êtres à sauver. Comme tu étais maigre, ton bonnet était enfoncé jusqu'aux yeux, quatre policiers se sont avancés vers le colporteur de journaux, peu à peu ils l'ont encerclé. Tu n'as rien vu, et moi si peu. Comme je vous le disais pour commencer, c'est en premier lieu ce « nous » qui nous est étranger. Du moins qui m'est étranger. À moins qu'on l'imagine. À moins que l'on construise une altérité. Tandis que la différence, ça existe. Ça se suffit. Mais l'autre est toujours à construire. Le fait justement que la phrase soit tronquée, qu'elle semble un fragment de discours, cela nous pousse à construire le discours dans lequel lui donner sa place. Et dans cet élan de reconstitution, nous construirions simultanément, dans cet élan, l'autre. Et faut-il avant tout imaginer un « nous » face auquel cet autre se retrouverait ? Ou bien ce « nous » advient-il grâce à l'autre ? Est-ce que c'est ce qui lui est étranger qui fait advenir le « nous » ? Imaginons que le « nous » soit composé exclusivement d'animaux. Je fais la bête, là. Ce serait un « nous » animal. Un romancier doit pouvoir parler à la place de l'animal et à la place de tout être privé de parole. qu'il soit un demeuré, un mort, un enfant, que pourrait-il alors désigner comme lui étant étranger ? Qu'est-ce qui serait étranger à nous, animaux ? La civilisation, donc la religion, donc la politique, l'écriture, donc la littérature, la cruauté, donc la torture. Et c'est peut-être justement ce nous animal qui nous est étranger si l'on se sent appartenir en premier lieu à l'espèce humaine. Et pourtant, ne sommes-nous pas aussi des animaux ? Dernièrement, un photographe m'a invité dans son atelier. Il se nomme Raphaël Dalla Porta. J'arrive dans son atelier, il me tend un livre que je ne saisis pas tout de suite. J'avais les mains mouillées, c'est pour ça. J'attends que mes mains sèchent et puis j'ouvre le livre. Il ne me dit rien. Il ne me dit pas ce qui est l'objet de ce livre, ce qui est représenté, ce que représentent ces photos. Et moi, je vois des entrailles, des parois aux formes irrégulières qui semblent en fusion. Et puis, ayant tourné quelques pages, je découvre sur ces parois, sur ces images, je découvre des parois, et sur ces parois, des dessins d'animaux qui semblent fuir un danger. Et je reconnais, en fait, il s'agit de la grotte Chauvet qu'il est allé photographier. Il m'informe que les hommes qui vivaient à cet endroit vivaient là, qui ont réalisé ces œuvres pariétales, ont fait ça il y a environ 30 000 ans. Et donc, c'est déjà l'Homo sapiens, ou plus communément l'humain. Et ce photographe me dit, ils étaient comme nous. Et quand il dit « ils étaient comme nous », je pense à l'origine qui n'est pas un début, mais quelque chose que nous transportons, qui est toujours là. Et pendant longtemps, je me suis insurgée contre la thèse de l'ascendance animale de l'homme, mais j'ai évolué. Puis je me suis renseignée, puis j'ai fini par admettre que c'est comme ça. Du point de vue de l'éthologie, bon, tout le monde le sait, et par rapport au reste du règne animal, l'Homo sapiens se distingue par un certain nombre de choses. Que je vais énumérer, mais je n'en retiendrai que deux ou trois. Il se distingue par la complexité des relations sociales, de ces relations sociales, par l'utilisation d'un langage élaboré, transmis par apprentissage, et il y a d'autres caractéristiques, la fabrication d'outils, le port de vêtements, la maîtrise du feu, la domestication des espèces animales et végétale et l'aptitude du système cognitif à l'abstraction, à l'introspection, et à l'imagination, donc à la spiritualité. Les trois caractéristiques sur lesquelles je m'arrêterai tiennent à ce qu'elles visent à établir un rapport entre soi et le monde, entre le même et ce qui lui est étranger. Il s'agit donc de la complexité des relations sociales et de l'utilisation d'un langage articulé qui s'apprend. À la faveur d'expériences et d'observations qui m'ont été confirmées par des lectures, j'ai dû admettre que l'homme n'est pas séparé de sa nature animale. Et que nous autres humains, nous procédons de ce qui nous est étranger, à savoir l'animalité et le règne végétal. ce qui me permet d'apporter une précision concernant un livre que j'ai écrit il y a quelques années, un livre qui s'appelle Faune, qui est un bestiaire dont les protagonistes sont autant des animaux dont nous descendons, donc. Et donc il est question autant d'animaux que de personnes que j'ai spontanément associées à certaines espèces animales. Mais j'avais inclus dans ce livre quelques végétaux, ce qui semblait bizarre à quelques personnes, en tout cas qui m'ont écrit ou qui m'ont dit que trouvaient bizarre qu'on mette des végétaux dans un bestiaire. Mais l'humanité présente des caractères qui l'inclut aussi dans le règne végétal. On dit que l'espèce humaine est classée dans le groupe des eucaryotes, c'est au même titre qu'un végétal. Eucaryote, c'est les cellules à un noyau, enfin être avec des cellules à un noyau. L'espèce humaine fait partie du règne animal, comme la limace. Des vertébrés, comme les grenouilles, des mammifères, comme les souris, et des primates, bien sûr. Je reviens un instant à Nietzsche et à Aurore, qui est une lecture qui m'accompagne, et particulièrement ces derniers mois. Je reviens à Nietzsche parce qu'il dit que c'est la fierté qui pousse l'homme à creuser le fossé qui le sépare de la nature. Ça, je l'avais déjà lu autrefois, mais je ne voulais pas l'admettre. Mais maintenant, il n'y a plus de problème. Nietzsche dit que cette fierté qui provient d'un préjugé sur l'esprit, cette fierté provient d'un préjugé sur l'esprit, et que nous vénérons l'esprit comme une prérogative humaine, alors que nous devrions plutôt envisager les choses autrement. Et être des demeurés, comme dans la longue préhistoire de l'humanité, où l'on supposait l'esprit partout. Il dit que l'esprit, alors, le spirituel, était considéré comme un bien communautaire. C'est-à-dire, l'esprit souffle, justement. C'est-à-dire une disposition, bien communautaire, c'est-à-dire une disposition commune aux animaux et aux végétaux et aux humains. Et qu'on n'avait pas honte alors de descendre d'animaux ou d'arbres, et on voyait dans l'esprit quelque chose qui nous lie à la nature et qui fait que nous y demeurons, et pas ce qui nous en sépare. On se formait, dit-il, ainsi à la modestie. Ce qui voudrait dire que notre moralité dépend indubitablement du rapport intime que nous avons à la nature. Dans les peintures chrétiennes, tout le monde aura remarqué que dans les peintures chrétiennes, chaque évangéliste est flanqué d'un compagnon. Il est reconnaissable à son attribut. Sinon, les évangélistes sont des hommes indifférenciés. C'est leur attribut seulement qui permet de les identifier. Et l'attribut de Jean, c'est l'aigle, l'attribut de Marc, le lion, l'attribut de Luc, le bœuf, et l'attribut de Matthieu, c'est l'homme. Enfin, certains diront que c'est l'ange, mais disons l'homme. Je dis l'homme parce que ce qui est intéressant là, c'est que l'homme se situe dans cette configuration-là, au même plan que l'animal. Il prend la suite. Et l'autre qui accompagne l'évangéliste, c'est justement lui qui produit la singularité de celui qui l'accompagne, de l'évangéliste, de l'homme. C'est une image intéressante parce qu'elle synthétise efficacement ce qui se joue dans toute individualité. Je vais vous lire le début chapitre d'une partie de mon prochain. C'est une partie qui s'appelle Dans la cage, qui est assez longue et je vais la découper et l'intercaler. Dans cette partie, il y a une équivalence, on montre une équivalence entre la condition animale et la condition de l'homme. Là où je travaille, par les baies vitrées, je vois apparaître toujours à la même heure un homme avec un balai et une pelle au bout d'un long manche, si bien qu'il n'a pas besoin de se baisser. Il circule en scrutant le sol dallé de la cour. Sa tâche est de ramasser les déchets, les feuilles et les fleurs mortes. Il n'en trouve pas plus de 3 par jour. Ma cage est nettoyée quotidiennement. On me fait sortir pendant ce temps. Je tourne en rond dans la cour. Je mange mes biscottes. Des moineaux croient qu'ils vont pouvoir se poser sur ma tête. Je suis réceptionniste maintenant. L'homme qui nettoie la cour dallée de cet immeuble somptueux où je monte la garde tient une pelle jaune pâle qui a une couleur de robe des années 1960. Un jour, il a pourchassé un petit bout de papier aluminium avec son balai pendant plus d'une heure. Il n'a pas l'air méchant. Il n'a pas l'air non plus d'un homme dont le balayage quotidien à heure fixe d'une cour impeccable soit l'activité principale. C'est un homme en cage. Il porte des pulls, des t-shirts rayés horizontalement ou verticalement. Il tire un balai derrière lui. Chaque jour, à 16h10, il s'avance dans la cour impeccable pour la balayer. Il traque des feuilles mortes, des détritus, des mégots. De temps en temps, il ramasse un morceau de biscotte. Il me le lance. Parfois, je l'attrape, parfois non. Depuis mon retour d'Amérique, où j'étais allée faire un reportage, j'occupe ce poste en remplacement d'une femme traumatisée par une agression. Un homme a pénétré dans le hall avec un fusil, il a tiré dans les vitres et il s'est enfui. Pour ma vacation, je reçois un gilet pare-balles et le salaire minimum. On m'emploie seulement l'après-midi. C'est une exigence de ma part. La veille de mon affectation, je me suis promenée, comme souvent, dans le 18e arrondissement de Paris. J'espérais tomber sur des amis morts. À l'entrée du métro Barbès-Rochechouart, stationne mon prochain en fauteuil roulant. Le mot « Nirvana » occupe en jaune son sweater noir. Il regarde les gens marcher, se disputer, il ne demande rien. Cet immobile prochain observe avec parfois le sourire, comme s'il regardait des clowns, un spectacle incessant. Ce sont les pas des humains et aussi les mouvements des animaux et des papiers dans le vent. Le matin, je suis en liberté. Ou je dors, ou je traîne dans les rues. Parfois, je vais au zoo. Il y a dans mon sac des morceaux de pain dur pour ces occasions. Il est rare que les animaux deviennent vieux quand ils vivent dans la nature. Tandis que dans les zoos, ils développent des infirmités semblables à celles des humains, qui avec l'âge se déplument, s'essoufflent. La médecine gériatrique est une spécialité indispensable aux zoos. Les animaux qui vieillissent souffrent de problèmes cardiaques, d'arthrose, de calvitie, de démence. Le mot « bonjour » me semble parfois hostile, ainsi que les formules de politesse. Je me suis entendue prononcer cet après-midi un bonjour appuyé à un homme qui entrait dans le bel immeuble de la place Vendôme où je travaille comme réceptionniste. Après mon échec en Amérique, J'ai contacté la succursale européenne de la firme sur laquelle j'aurais dû enquêter afin de leur proposer mes services. Je suis payée pour regarder les gens et pour leur dire bonjour. C'est la partie la plus importante de mon travail. Mes cheveux sont propres et attachés. J'apporte un grand soin à mon élocution. Dans cette partie de mon récit, vous entendrez mes efforts. Il m'arrive de dire plusieurs fois bonjour à la même personne sans m'apercevoir que j'ai déjà vu ce visage et salué cette personne. Je me tiens droite et je regarde les gens qui entrent et qui sortent. Je les regarde avec insistance, de manière impolie, parce que l'on me demande de regarder ces gens et de les saluer. C'est pour cela qu'on me paie, pour que je sois polie avec vous. Mais cette politesse excessive et rémunérée me conduit à l'impolitesse. Ainsi, l'homme qui entre dans l'immeuble, un avocat en train de gérer une affaire mentalement, yeux vagues, l'axe de la tête formant un petit angle avec le sol, l'homme qui entre dans l'immeuble et qui marmonne, l'homme qui ne me salue pas parce qu'il est préoccupé, est rappelé à l'ordre par moi, la réceptionniste. Je prononce avec insistance mon bonjour servile et je vous regarde lourdement, surtout si vous ne me saluez pas. Non pas pour que vous me répondiez, ni pour vous mettre mal à l'aise, mais pour que vous témoigniez que je fais bien mon travail en cas de litige avec mon employeur. Sinon, quand je suis seule dans le hall, je pense à des animaux. Ou alors j'invente le monde en regardant ce qui est devant moi. Je reste au seuil. Quand je suis défaite, je vois mieux l'humanité. Sans doute il m'arrive de marmonner. J'entends votre chagrin. Je reste au seuil, immobile. Je vous contemple. Vous avez soif. Je ne peux pas dire comment je le sais. Si je vous donnais une bouteille d'eau, vous n'oseriez pas la prendre. Vous avez peur de tomber, et c'est ce qui vous fait tomber. Vous avez peur de pleurer. Vous ne voulez pas être un enfant, vous préférez comprendre. À la longue, vous n'entendrez plus ni la musique, ni rien. Cet effort que vous faites en ce moment pour essayer de comprendre ce que je vous dis, alors que c'est si simple, c'est simple. Je vous dis juste que vous m'entendez, qu'il y a nous. Mais j'arrête si ça vous fait peur. Dans le zoo de Dublin, vit une ours qui a franchi la barre des 30 ans. Pour un ours polaire, c'est vieux. Les gens du zoo l'ont nommée Lisa. Ils disent que pour son âge, elle est à peu près en forme. La plupart des mammifères et des oiseaux passent moins de temps sur Terre que l'homme normal. Il y a des exceptions. Quelques baleines. Quelques baleines vont jusqu'à 200 ans. Des Esquimaux ont trouvé des armes anciennes dans une baleine. Ils ont harponné la baleine et puis ils l'ont explorée comme une grotte. Dans ses chairs, à cette baleine, étaient incrustées des armes qui ne sont plus utilisées depuis la fin du XIXe siècle. La baleine du Groenland serait la seule à avoir jamais nagé 200 ans dans les eaux arctiques. Il y a aussi les ânes, les vautours, les perroquets, les corneilles qui ont parfois atteint les 100 ans, les tortues, les carpes. Les animaux à sang-froid peuvent devenir vieux à faire pâlir. Ils mènent une vie parcimonieuse. C'est pour ça. J'ai toujours senti que le sport m'était nocif. Cela dit, la grande vieillesse ne fait pas partie de mes ambitions. Tandis que les mammifères et les oiseaux doivent maintenir leur température intérieure, ce qui nécessite beaucoup plus de nourriture. Et donc ça les oblige à mener une vie trépidante. La chasse aux calories est éreintante pour une musaraigne. Elle pèse environ 2 grammes. Un corps aussi minuscule court en permanence le risque de se refroidir. Il faut qu'elle trouve de la nourriture. Alors la musaraigne cherche dans tous les coins. Elle retourne le monde. Elle s'active sans cesse, jusqu'à mourir d'épuisement. Sa vie d'intranquille s'achève au bout d'un an, sous mes yeux. Il est arrivé qu'elle traverse le clavier du standard, attirée sans doute par des miettes vitales, réconfortée par la chaleur de l'appareil. La voir bouger me faisait crier. Son petit corps inerte, recroquevillé, mou, me culpabilise. J'ai désiré sa mort. J'ai appelé le chef de la sécurité. Il a dit « Oui, quoi, une souris, je note, je vous envoie mes gars. » Ils sont venus à trois. Deux vigiles et l'homme qui balait la cour à heure fixe. La souris morte est partie dans la pelle. On aurait cru la créature blonde minuscule sur la paume de King Kong amoureux. Les souris me font plus peur que la bombe atomique. Peut-être c'est parce que la bombe atomique me fait réfléchir, me fait penser à nous. Auparavant, j'ai tenu différents postes, souvent dans des quartiers d'opulence. Pendant quelques semaines, on m'a chargé de surveiller l'accès d'un immeuble occupé partiellement par la caisse de retraite. Le type qui en tenait la permanence venait parfois s'accouder à mon guichet, à l'opposé du sien, pour me tenir compagnie. Mais c'est lui qui s'ennuyait, moi j'ai pas besoin de compagnie. Il téléphonait à des gens pour leur dire qu'il s'ennuyait. Il mangeait des gâteaux dont les miettes tombaient sur mes papiers et j'avais peur que cela n'attire les rats. L'existence de certaines espèces animales, de certaines espèces, ressemble à une lueur vacillante. Pour quelle raison certains êtres s'éteignent si vite? Pour quelle raison celui-ci d'animal est ardent pendant plus de 100 ans? Mon père, par exemple, n'a pas vécu plus de 44 ans. Il est dans mon caractère de passer du coq à l'âne et de ne pas poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Au chef de la sécurité, avec lequel je converse lorsqu'il fait sa ronde, j'ai demandé. Une souris vit 25 fois plus longtemps qu'une mouche. Un chat vit 5 fois plus longtemps qu'une souris. Et l'homme vit 5 fois plus longtemps que le chat. Pouvez-vous me dire pourquoi? Non, c'est comme ça. Je n'ai jamais eu affaire à un vétérinaire. Tous mes chats sont morts écrasés par des voitures. Ils étaient jeunes, vifs, sans vaccin, sans maître. Enfant, j'ai joué avec des personnes de mon âge dont le rêve était de devenir vétérinaire. J'ai toujours considéré que c'était un métier de vieillard, ce qui n'a rien d'insultant, au contraire. Et puis plus tard, à la fin de l'adolescence, la plupart des gens que je rencontrais voulaient être journalistes, travailler dans la communication. Il y en avait qui envisageaient de s'occuper d'animation culturelle. Je me suis mise à écrire par manque d'ambition sociale. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas imaginé que je pourrais avoir une profession. Pendant ma vacation de réceptionniste, j'ai fait quelques tentatives d'articles pour le journal. Aucun n'a été publié. En ce moment, j'essaie d'écrire sur la vieillesse des animaux. Je téléphone beaucoup. Il me faut des informations. Pour remplir mon espace, j'ai demandé 4 pages. On repasse aux choses sérieuses. Oui, je me disais que je pourrais parler un peu de l'écriture. Parce que vous m'êtes étranger. C'est parce que vous m'êtes étranger que je peux vous parler de l'écriture, c'est-à-dire de ma façon d'être au monde. À des proches, à des gens avec lesquels je vis, il m'est impossible d'en parler. Au contraire, à ces proches, je me sens toujours obligée de cacher ce qui m'occupe, parce que ce qui m'occupe m'éloigne d'eux, me les rend étrangers. C'est difficile de parler en public quand on écrit, enfin tout dépend ce qu'on écrit, parce que parler à un public diffère considérablement de l'écriture tout court, ou de l'écriture du moins telle que je la pratique. Écrire un livre suppose un autre que le livre est destiné à rencontrer. Mais c'est le livre qui rencontre l'autre. Pour l'écrivain en personne, se trouver face au nous, s'adresser à lui directement, c'est une situation de cauchemar. Enfin, j'exagère un peu, pas tout à fait le cas. C'est ce que je me disais avant d'être là. Et quand on écrit, on se dérobe à ce face-à-face. Le « nous » qui intervient dans l'écriture, c'est un « nous » construit, fantasmé. L'autre qui intervient dans l'écriture, c'est un tiers inconnu. Il est dépourvu de caractère. C'est lui qui donne l'impulsion du livre. L'élan de la profération a sa source dans cette cohabitation. On pourrait même affirmer que tout livre dit de littérature découle d'un dialogue entre celui qui l'écrit et cet autre non identifié. Et cet autre intériorisé, est-ce que ce ne serait pas soi-même ? Soi-même que l'on ne reconnaîtrait pas ? Soi-même que l'on prendrait pour un autre. Comme l'animal qui, derrière le miroir, derrière le miroir qui le reflète, cherche un autre. C'est une caractéristique commune aux enfants sauvages. Leur image, leur reflet dans le miroir, image spéculaire, leur est étrangère. Ils ne s'identifient pas dans le miroir. Quand on a mis Caspar Hauser, qui est un célèbre cas d'enfant sauvage, qui a inspiré le texte, la pièce de théâtre de Peter Handke, Gaspar, qui m'accompagne, quand on l'a mis devant un miroir, il est allé derrière le miroir. Il est allé chercher ce qui s'y trouvait. Et bien sûr, il n'y trouva personne, puisque l'autre, c'était lui-même. Quand on écrit un roman, enfin, les techniques du roman visent, je crois, en premier lieu, à déterminer un mode de coexistence avec le lecteur, avec un autre. Donc, parfois, dans certains romans, c'est très marqué. Chez Beckett notamment. Dans un de mes livres qui s'intitule La nature, j'ai beaucoup réfléchi à ça avant d'écrire le livre, à la manière dont le narrateur s'invente et comment du même coup il invente un personnage. Il invente son propre personnage. Et dans ce livre qui s'appelle La nature, je me suis désincarnée dans un personnage et dans une multitude de personnages. C'est un livre qui fait alterner différents protagonistes qui sont réduits à des fonctions sociales. Il s'agit toujours de femmes. Parfois, leur fonction sociale, c'est simplement leur âge. C'est une femme qui se multiplie en une quantité de femmes, et ce sentiment d'étrangeté que l'on ait parfois pour soi-même, il s'est traduit dans ce livre-là dans des termes grammaticaux et de manière évidente dans l'emploi de l'article indéfini qui est sans cesse employé et d'une manière impropre très souvent. Mais il est là pour signaler particulièrement l'inconnu qui se renouvelle quasiment à chaque phrase. Tandis que l'article défini suppose que vous savez à qui vous avez affaire. Dans la situation où je me trouve actuellement, l'espace nécessaire à la communication est matérialisé. Nous sommes ensemble, mais séparés, face à face. Je suis seule face à vous. Quand j'ai commencé à réfléchir à cette phrase, à cette conférence, ce qui m'apparaissait tout d'abord, c'était l'agencement des lieux. J'ai commencé à réfléchir à partir de cet agencement-là et à la manière dont nous prendrions place les uns et les autres. Vous étiez là, vous avez toujours été là, mais vous étiez réduit à un ensemble, à un « nous », vis-à-vis duquel j'étais l'autre. Dès qu'on est seul face au nombre, on prend conscience qu'on est l'autre. Et d'une certaine façon, enfin de toute façon, on est toujours l'autre. L'autre révèle le groupe auquel il est étranger. Je crois que c'est en premier lieu l'étranger qui produit la communauté qui l'exclut. Il suffit d'une prise de parole déplacée, d'un acte répréhensible, tapageur, pour que la société fasse corps contre l'élément qui s'en dissocie. À mon ami Adam, que vous connaissez aussi bien que moi, mon ami Adam lit toutes sortes de magazines. Je lui ai demandé pourquoi un chat vit 5 fois plus longtemps qu'une souris. Que disent les scientifiques ? Il m'a répondu : il y a plusieurs versions. Mon prochain biologiste a mis au point une théorie souvent citée. Il explique depuis quelques mois sa théorie dans plusieurs langues. Une fois, mon ami Adam est allé écouter une de ses conférences et il lui a parlé après, en attendant l'ascenseur. Est-ce que les langues, on peut les comparer à des espèces animales ? J'en sais rien. Le secret d'une longue vie réside dans la nonchalance, celle de la tortue par exemple. Celui qui vit à toute allure meurt tôt. Selon le biologiste, il faudrait ne pas trop courir, ne pas trop consommer. Plus on consomme, moins on vit. C'est une vérité scientifique. C'est une mise en garde révolutionnaire. La durée de vie dépendrait du métabolisme et de la consommation d'énergie du corps. Ce n'est pas la seule théorie sur le vieillissement. Il n'existe pas encore d'explication définitive concernant l'existence, ni de recette contre la fragilité de la vie. Mais il se peut aussi que la déchéance ne soit pas une loi de la nature, au contraire. Il est courant pour toute existence de se régénérer. Il repousse des membres à la plupart des tritons. Ma vie en captivité m'empêche de me reproduire. Je joue avec les petits des autres. Les animaux en dehors du zoo, la longévité ne leur apporte rien puisqu'ils seront dévorés par leurs ennemis. Pendant leur jeunesse, ils font des petits et assurent la continuité de l'espèce. Les souris domestiques, grâce à leur stratégie de reproduction, ont conquis le monde. Les animaux qui vivent en sécurité deviendront plus vieux comparés aux animaux qui cohabitent avec leurs ennemis. Mais les animaux n'ont pas le désir d'échapper à leurs conditions animales contrairement aux humains. Nous croyons, nous, pouvoir échapper à notre condition en espérant prolonger notre durée d'existence. J'en profite pour boire un petit peu. La plupart des animaux meurent dès qu'ils ne peuvent plus avoir d'enfants. Ce luxe d'une vie au-delà de la période où il est possible de se reproduire, la nature l'accorde rarement. Les grands-parents, ça n'existe que chez les hommes. Les femelles chimpanzés accouchent presque jusqu'à la fin de leur vie. Ce qui peut arriver, c'est qu'elles meurent de vieillesse alors qu'elles ont encore des petits accrochés à leur poitrine. Ces petits sont adoptés par des membres de la horde, ou bien ils meurent aussi. Comme bête impressionnante, dans le zoo de Dublin, il y a un tigre de Sibérie, une panthère, des girafes, des flamants roses et un couple de lions. J'aime les animaux empaillés, sinon les fauves. Devant l'enclos des singes, mon prochain chantait « California Dreaming ». Nous sommes repartis ensemble. Il avait cette chanson dans la tête, il la criait en marchant. Il m'a montré un oiseau noir, un cormoran. L'oiseau a plongé, il a disparu dans l'eau et il est ressorti. Grâce à ce qu'il me montrait, ce qu'il y avait au bout de ses doigts, l'oiseau noir qui coule, qui revient, qui s'ébroue. Je sentais mon cœur excessivement. Je sens mon cœur collé à la cage thoracique. Mon prochain a tendu sa main. Je l'ai serré trop fort. J'ai dit « Je t'appelle Daniel ». Il a dit « C'est bien ». Les éléphants sont à côté des hommes les seuls animaux qui se souviennent des morts avec tristesse. Les membres du troupeau vont vers l'animal mort, ils le sentent, ils le touchent et ils se tiennent des heures auprès de lui. Les éléphants peuvent facilement devenir vieux car ils sont protégés par leur troupeau et parce que de toute façon, à cause de leur énormité, ils ne sont pas des proies faciles. La plupart des autres mammifères ne peuvent vieillir que dans les zoos. Je lui ai demandé à Daniel s'il était vétérinaire. On est entré dans un pub. Assis face au comptoir, on a bu des liquides sombres, de la bière irlandaise, du café. À l'entrée du pub, sur une estrade, un groupe reprenait des hits à contre-jour. La chanteuse a souri à Daniel. Il a fait non avec sa tête. « Non, non, je ne suis pas vétérinaire. Nous retournerons vite aux zoos. » L'âge qu'atteignent les animaux qui vivent dans la cage est inenvisageable pour ceux qui sont dans la nature. La nature, c'est un terrain de chasse. Celui qui a œuvré à sa vieillesse ne survivra pas longtemps. Seuls les animaux qui n'ont pas d'ennemis, presque pas, peuvent vieillir en liberté. On voit, mais c'est très rare, des vieux lions dans les parcs nationaux africains. Les vieillards éléphants ne sont pas rares. Ils peuvent dépasser les 60 ans. La vie continue, malgré la chute des dents. Cela ne concerne pas les défenses qui restent à l'éléphant toute sa vie, mais ses molaires, qui lui sont indispensables pour mâcher les plantes. Mon père est mort en cage d'une intoxication. Les carnassiers observent leur proie potentielle. Chaque signe d'incapacité physique est tout de suite enregistré. N'importe quel être affaibli sera capturé. J'ai fait l'expérience de cette attention aiguë du prédateur. Simplement, je me suis mise à boiter devant la cage d'un tigre et le regard du tigre s'est planté en moi. Quand la nuit s'est approchée, le lion a rugi. J'avais peur. Mais Daniel était calme. Il avait un air de Tarzan. Nous étions enfermés dans le zoo. J'ai hurlé. Toujours calme, il est parti à la recherche d'une issue. Il a grimpé dans un arbre, il a tendu sa main vers moi pour me hisser. Dans les zoos, les animaux développent le même genre d'infirmité que les hommes. Chute des cheveux, maladie cardiaque, diabète et aussi la démence. Dans la nature, ça n'existe pas. Des hanches usées donnent une démarche empesée aux hommes et aux bêtes en cage. Les animaux se déplacent à leur peu et ils ne prennent plus soin de leur corps. La saleté s'incruste dans la peau, ils ne se donnent plus la peine de se nettoyer. Le médecin des animaux doit venir de plus en plus souvent, on l'appelle pour n'importe quoi. Le soir tombait calmement sur du blanc qu'on apercevait par-delà nos barreaux. J'étais dans le zoo, enfermée avec un homme. Il était calme et les lions rugissaient. J'accompagnais le cri des bêtes. J'ai allumé un petit feu de brindilles et de mouchoirs en papier. Vous me demanderiez en quelle année ça a eu lieu, je ne pourrais pas vous répondre. Que c'était la fin d'un hiver, ça, j'en suis sûre. Il arrive que le lecteur prête à votre livre une signification qui vous a échappé. Le sens de ce que vous avez écrit, parfois, vous est étranger. Enfin, pas tout, mais quelques bribes. Et il revient alors à un autre de le mettre à jour. Moi, parfois, je ne comprends pas ce que j'écris. Enfin, il y a des phrases que je ne comprends pas, mais je ne peux pas ne pas les écrire. Ça m'est comme dicté. Je ne sais pas par qui ça m'est dicté. Et je l'écris parce que je sais que c'est vrai. Et il y a aussi des livres qui nous deviennent étrangers. Certains de mes livres me sont devenus étrangers parce qu'ils collent trop. Pas tellement à ma vie, ça tient pas à ce qui est raconté, mais ce sont des livres qui sont collants, qui sont gluants, qui visent pas la compréhension et qui n'incluent pas l'altérité. La lecture récemment de d'un livre d'un philosophe italien qui s'appelle Giorgio Agamben m'a permis de me rendre compte que cette langue italienne que je pratique depuis peu et que je suis en train d'apprendre, elle m'est déjà plus familière que la langue française des textes qu'il cite dans un ouvrage particulier. Il s'agit de textes de la littérature médiévale. Et je lis ça très scrupuleusement et je me suis rendu compte que je préfère lire les textes philosophiques et notamment ceux d'Agamben dans leur langue d'origine, dans une langue qui m'est étrangère, parce que justement ma faiblesse face à cet écrit est à surmonter par un apprentissage des tournures, du vocabulaire, de la syntaxe. Et c'est justement ma position inconfortable qui va me permettre de comprendre le texte. Tandis que si je m'installe confortablement dans un fauteuil, sans dictionnaire, sans crayon, il y a de fortes chances que le texte se déroule en dehors de moi. C'est ce qui se produit de temps en temps. Même si le livre est un livre écrit dans ma langue maternelle, parfois, mais plus incompréhensible qu'un texte que je dois déchiffrer. Il arrive que la langue maternelle, par son évidence même, fasse barrage au sens profond d'un texte, qui sera mieux délivré, paradoxalement, si on se trouve face à lui en position de demeurer. C'est-à-dire, si on ne préjuge pas, si on n'aborde pas la parole de l'autre avec hauteur et maîtrise, mais au contraire, avec modestie et innocence, et surtout avec lenteur. Et c'est d'ailleurs une consigne qui est donnée par Nietzsche, encore une fois dans Aurore, qui enjoint le lecteur à devenir lent. Et il dit, on n'a pas été philologue en vain, on l'est peut-être encore, ce qui veut dire professeur de lente lecture. Comme je vous le disais, j'ai commencé à apprendre l'italien il y a un an à peu près. Et quand je suis arrivée dans ce pays, je parlais à peine l'italien. Et à présent qu'il m'est possible et agréable de m'exprimer dans cette langue, je peux lire des textes qui m'importent par leur sujet, mais je dois dire que j'ai commencé à lire en italien, j'ai commencé à lire des livres pour enfants et j'ai progressé dans cette langue de la même manière que les enfants. En abandonnant mon orgueil. Et c'est comme ça que j'ai pu progresser et accueillir d'autres textes. En arrivant, j'ai pris un répertoire dans lequel j'ai inscrit au fur et à mesure de mes échanges et de mes lectures des mots. Et j'ai procédé... Donc j'ai inscrit des mots qui, tous les mots qui m'étaient étrangers, qui ne le sont plus, mais dont j'ai gardé la trace. Et chacun exprime un moment d'une appropriation, de l'appropriation d'une langue et des rapports avec autrui. Parce que la langue étrangère n'est jamais une langue du pour soi. Au contraire, c'est une langue qui est en dehors de soi et qui vise l'échange, la compréhension et qui est soutenu par la conscience de l'altérité. Mais au début, j'entendais que du bruit quand on me parlait, parce qu'une langue qu'on ne comprend pas, c'est du bruit. Et j'ai noté donc chaque mot nouveau, de la même manière que Caspar Hauser. J'ai répété des phrases au début, des phrases dont je ne comprenais pas l'organisation. J'ai procédé comme Caspar Hauser, et j'avais les mêmes caractéristiques que lui, telles que c'est décrit par Peter Handke dans sa pièce de théâtre. Gaspard ne dispose que d'infinitifs. Il parle de lui à la troisième personne et il acquiert le jeu très lentement. Et son discours est parsemé de polysémie aberrante. Il utilise le mot berg pour désigner non pas seulement la montagne, c'est le sens du mot en allemand, mais pour désigner tout ce qui est élevé. Et dans mon cas, c'est le mot alba qui avait qui veut dire aube en italien, qui me servait à désigner tout commencement. Et certains mots, j'ai fait cette expérience grâce au répertoire, prennent la valeur de concept. Ils ne désignent plus seulement une chose, mais ils deviennent l'expression d'une idée. Et le mot alba devient un concept en raison même de l'insuffisance de mon vocabulaire. Un seul mot me sert à désigner, ou m'a servi pendant un certain temps, à désigner un moment précis, une image précise, mais aussi il s'est étendu à l'idée de tout commencement. Les mots qui figurent dans ce répertoire devraient avoir chacun une majuscule, qui, selon les règles de l'orthographe française, marque l'aube d'une phrase, justement, ou un nom propre. Dans mon prochain, je n'ai jamais utilisé la majuscule, sauf pour mon prochain, qui est le seul groupe de mots qui soit marqué par une majuscule. Et je disais que chacun de ces mots du répertoire devrait avoir une majuscule parce qu'ils sont l'équivalent d'un nom propre. Et chacun de ces mots initie une expérience dont l'addition marque une trajectoire dans la langue étrangère. C'est-à-dire qu'ils sont des noms qui renvoient à un fait, à un événement, à une chose unique et à un commencement. Et cette addition des mots, elle pourrait très bien, chaque mot pourrait être le chapitre d'un récit. Et le premier mot justement qui figure dans ce répertoire, c'est le mot alba. À partir de là, à partir de ce mot aube, la nuit s'est dissipée peu à peu, mot à mot. Et voilà. L'étrangeté, à propos du mot aube, l'étrangeté des situations ordinaires se manifeste lorsqu'on cherche à les nommer. Et si j'entreprends par exemple de décrire l'aube, eh bien, il faut que je la considère. Et pour la considérer, il faut que je prenne du recul, je dois me différencier de ce que je remarque. Il faut s'étonner, ne rien savoir, ne pas préjuger et avoir un rapport purement sensible. Esthétique, pourrait-on dire. D'ailleurs, les mots dont on ne connaît pas le sens, les mots de la langue étrangère, quand on n'en connaît pas le sens, ils ont une beauté pour soi seul. Le mot avant le sens, c'est le beau en soi. Et vous aurez sans doute remarqué qu'en français, indépendamment du sens, les plus beaux mots sont les mots qui désignent les maladies et les fleurs. Cirrhose, angine, camélia, chèvrefeuille, infarctus, céphalée. C'est vraiment... On peut faire une liste de... Si on fait une liste des plus beaux mots de la langue française, ce sont ces mots-là, et indépendamment de ce à quoi ils renvoient. Juste en dessous du mot « aube », il y a le mot « abillamento » qui veut dire « habit ». Et bon, on est nu à l'aube, ensuite on s'habille pour se protéger du froid, mais aussi pour... se présenter à l'autre, pour sortir de soi. Et parler consiste à sortir de soi. Il y a une langue à l'intérieur de soi. C'est une langue qui accueille, qui oriente ce qui se présente. Tandis que la langue étrangère, celle qu'on cherche à s'approprier, n'est pas à l'intérieur de soi. Comme je le disais, elle est au dehors. On ne la parle jamais tout seul. Tandis que la langue maternelle, la langue intérieure, c'est celle du monologue, de la parole pour soi. Et juste en dessous du mot abbigliamento, il y a abbigliamento di lusso, habit de luxe, que je n'ai jamais utilisé dans la vie courante, mais je l'ai noté au cas où. Et... Justement, au début de mon apprentissage, quand je me penchais sur le journal La Repubblica, comme je ne comprenais rien, je me contentais de regarder les images du journal et leurs légendes. Et c'est ainsi qu'en page 4, un jour, je me plonge dans deux images dont l'une montre des migrants qui meurent dans la Méditerranée, quand sur l'autre image, en regard, on voit une femme splendide, vêtue d'un maillot de bain. Elle sort intacte de la Méditerranée, elle est parée d'un bikini qui la préserve des malheurs et qui attire le regard, c'est la fonction du bikini. C'était une publicité pour une marque de prêt-à-porter de luxe justement. Et le journal ne se soucie évidemment pas de l'image à laquelle il apparaît celle de la société de consommation. On a d'un côté les migrants en haillons qui prennent la mer au péril de leur vie, et à l'opposé, la baigneuse qui jouit de la mer, de la même mer. Les deux images ont en commun d'être légendées sans nom propre. Ceux que l'on montre sont des inconnus. En regardant ces images, il est facile de savoir à quelle catégorie nous appartenons, nous. Celle des nantis qui se baignent dans la mer et qui portent des maillots de bain. C'est de cette place-là que nous considérons la misère d'autrui. Statistiquement, celui qui lit La Repubblica ou n'importe quel journal, Le Monde ou Le Nouvel Observateur, Les Inrecuptibles, tout ce que vous voulez, appartient à la catégorie des figures représentées par la publicité. Nous sommes des personnages de la publicité, pour qui prendre la mer est un loisir, pour qui la politique est un loisir, un sujet de conversation, une culture, plus qu'un destin, en tout cas, et plus qu'une obligation. Le mot « accueillir », comme par hasard, se trouve toujours en dessous du mot « habit » dans mon répertoire d'italien. Et je vais m'arrêter au mot suivant, qui est le mot « acte », qui venait juste après « accueillir », après cette succession de « aube »,« habit », »,« accueillir », il y avait « acte ». Il y a « acte ». Selon la Bible, la première tâche que Dieu confie à Adam, c'est de nommer. L'homme est assigné à cet acte-là, nommer ce qui est. Une fois qu'il a fait le monde, il dit à Adam, il ne le dit pas comme ça, mais il lui dit tout ce qui est là, il te revient de le nommer. Comme si Dieu avait fait tout ça pour que Adam le nomme. Comme si le monde n'existait que pour être coulé dans le langage. Mallarmé était d'ailleurs convaincu que le monde existait seulement pour se jeter dans un livre. Et c'est en nommant chaque chose qu'Adam se sépare de ce dans quoi il baigne. Et alors que je réfléchissais à ça, il y a quelque temps, il m'est revenu en mémoire un livre que j'ai lu il y a très longtemps et que j'ai eu envie de relire pour réfléchir à ce qui nous est étranger. C'est un livre dont j'ai déjà donné le titre, il s'agit de Gaspard de Peter Handke, qui est un texte théâtral qui a été écrit à la fin des années 60, qui est librement inspiré de la vie de Kaspar Hauser. La pièce de Handke raconte comment le jeune homme apprend à parler. Et parallèlement à cet apprentissage, il se déplace. Il déplace les objets, il évolue dans l'espace parmi des objets. Il n'est plus au monde de la même manière une fois qu'il s'est parlé. Plus jamais Molly, la femelle bonobo, ne retournera dans la jungle. Elle habite Dublin désormais. Pourtant, elle n'avait aucun problème avec les siens. Un jour, dans la cage, on fête ses 50 ans. Son crâne brun est constellé de confettis rouges et jaunes. Les infirmiers lui crient une phrase et elle se demande si c'est du danger. Ils tapent dans leurs mains, ils encerclent Molly et de nouveau ils crient « Happy birthday, Molly !» Je croyais que Daniel, pendant que je dormirais, dresserait un cormoran à disparaître et à rejaillir. Du rebord de la baignoire, Daniel chuchote à l'oiseau des mouvements de survie. Il éponge sa petite bête frissonnante avec tendresse, puis il me réveille. On a rebu du Nescafé. Par la fenêtre de la chambre, on voyait les poubelles dans la rue, des choses qu'on pourrait récupérer. Nous nous emplissions d'espoir jusqu'à l'apparition d'un rat, qui n'est pas un animal, mais une créature qui nous maudit, moi surtout. Quelquefois, des personnes s'adressent à moi avec mépris, et si je leur demande de reformuler leur requête, elles ont l'air exaspérées. Ma position sociale, de réceptionniste, indiquerait que je leur suis inférieure. C'est le présupposé d'inégalité des intelligences qui produit ce genre de comportement. Mon prochain, très désagréable, formule une demande imprécise, cafouilleuse, en même temps qu'il écrit un texto, et comme je ne comprends pas, je lui pose quelques questions. Il y répond avec impatience et agressivité. Alors j'appelle quelqu'un, une femme, n'importe laquelle, et je lui fais croire à mon prochain, qui est con comme un balai, que c'est elle la directrice de tout. Il s'adresse à elle alors avec respect parce que sa soumission à la répartition des rôles dans la société est plus forte que sa curiosité, sa confiance. Chez les mondains, les comportements ne sont pas différents. Leur instinct de conservation les incite à s'avilir pour garder leur place ou pour en avoir une meilleure. Les paroles qui n'ont pas d'abord été validées par l'institution culturelle et par les médias ou par quelqu'un auquel ils se sont soumis ne leur disent rien. Ils ont peur de se tromper, de mal répondre. Ils se sont débarrassés de Gaëlle quand elle s'est pointée à une réception où elle avait été invitée par erreur. Nous étions venus ensemble, c'était en plein air, au sommet d'un immeuble sur une terrasse qui surplombe pas mal de rues. Il y avait du champagne et des pyramides de toutes petites choses à manger qui attiraient les convives. Mon amie Gaëlle a vu un rat se faufiler sur la table, elle l'a montré en s'écriant, et elle a été jugée fautive. On nous a chassés. Comment le rat a-t-il pu aller si haut? En grimpant par dehors, par l'extérieur, en empruntant des voies cachées, ou alors il s'agissait d'un animal domestiqué? De l'extérieur, il est difficile d'évaluer la liberté de l'autre, mais la caractériser, on peut. La valeur de notre action est intérieure. Elle dépend d'une promesse à soi-même, plus que de la validation de la société. Mon amie Gaëlle s'est assise sur le rebord du trottoir. Elle m'a dit la phrase qu'il dit au commencement, Gaspard Hauser. Gaspard, la phrase qu'il dit au commencement, c'est « J'aimerais devenir comme celui qu'un autre a été un jour. » C'est sa phrase. Cette phrase est un exemple. C'est une phrase en ordre, il la répète constamment. Et depuis qu'il sait dire cette phrase en ordre, il commence à comparer tout à cette phrase, de la même manière que j'ai comparé toutes sortes de choses à la phrase « ce qui nous est étranger ». Le parler de Gaspard ignore la syntaxe. Ces phrases sont juxtaposées. On appelle ça la parataxe. Le présent et la parataxe caractérisent la langue de la plupart de mes livres. Pour moi, il s'agit d'exacerber la simplicité, d'afficher une certaine pauvreté, d'exposer l'aphasie, ma propre aphasie, dès lors que je suis aux prises avec le langage. Le narrateur est un dédoublement de l'écrivain qui lui transfère ses pouvoirs en même temps que son impuissance. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ce compagnonnage de moi et mon livre, de mon livre et moi, et il y a un livre auquel je me consacre depuis pas mal de temps. J'espère qu'un jour, il aboutira. En tout cas, c'est ce que j'aurais fait de plus difficile dans ma vie. C'est un livre où je raconte la vie quotidienne dans son aspect matériel et sa dimension spirituelle d'une demeurée. La débilité de ce personnage n'est pas constitutive, elle s'est produite à la faveur d'un événement. On ne sait pas s'il s'agit d'un traumatisme, d'une agression ou si cela résulte d'une émotion forte. On ne le sait pas, la seule à le savoir, c'est justement celle qui ne peut plus se communiquer. C'est elle qui conserve le mystère de sa situation. Mais c'est précisément son insuffisance qui affirme la possibilité humaine, c'est-à-dire le devenir humain qui prend appui sur une insuffisance dont il cherche à s'affranchir. L'animalité est certes l'origine, mais c'est un état qui demeure. Il faut à l'être humain sans cesse le dépasser. Voilà ce qu'il distingue des autres animaux. L'homme est un animal scindé et sa nature est d'organiser la coexistence avec l'autre, qu'il soit intérieur, fantasmé donc, ou objectif. J'ai bientôt fini, mais j'ai fait une lecture très importante dernièrement et je vais essayer de vous en parler en étant brève. Il s'agit d'un texte de Giorgio Agamben dans lequel il expose la difficulté à lire. Et il parle notamment d'une difficulté des plus radicales et même d'une impossibilité à lire qui était très répandue jusqu'au début du XXe siècle, enfin, peut-être même après, mais disons qu'il y a un siècle encore, ceux qu'on appelle les analphabètes et qu'on a oubliés étaient la majorité. Et Agamben cite un grand poète péruvien qui s'appelle César Vallejo, que je vous incite à lire. Et il cite Vallejo qui dit qu'il écrit pour l'analphabète. Ça ne veut pas dire qu'il écrit pour que l'analphabète le lise, puisque par définition, il ne le pourra pas. Mais à la place de l'analphabète. Le poète et l'écrivain qui écrivent pour l'analphabète, à la place de l'analphabète, essaient d'écrire ce qui peut être lu par celui dont ils adoptent le point de vue. Ils mettent sur papier l'illisible, en quelque sorte. Il faut écrire de manière à faire éprouver au lecteur éventuel, la difficulté de lire. Il faut que la main tremble, comme tremble la main de l'alphabet quand il saisit le stylo, qui est un outil, au même titre que les ciseaux ou la charrue. Et cette écriture de l'écrivain et du poète, qui écrit pour le demeuré, avec le paradoxe qui la sous-tend, c'est une écriture extrêmement complexe que celle qui consiste à écrire pour à la place de celui qui ne peut pas lire. Et pour finir, je reviens à Gaspard, le texte de Peter Handke, texte dans lequel il montre d'une manière parfaite l'acquisition du langage par l'enfant sauvage, par ce personnage de Gaspard. Avec justesse, Peter Handke, dont on connaît la maîtrise, fait justement sienne l'impuissance de son personnage. Il écrit pour l'enfant sauvage, pour le demeurer, il écrit à sa place. Le texte se présente de la manière suivante. Il y a deux colonnes parallèles, donc, enfin, forcément, qui juxtapose les paroles prononcées par Gaspard et ses gestes. Les deux manifestent la même débilité, débilité dans le sens de faiblesse, insuffisance, et la même obstination. L'issue de cet apprentissage tient en un mot, un pronom personnel. Parce que à la fin, Gaspard réussit à dire « je » pour parler de lui. Il ne parle plus à la troisième personne, il ne dit plus « il » pour se désigner, il ne se désigne plus comme il désignait les objets. Et s'il dit « je », il ne tardera pas à dire « nous ». Sa compréhension s'étendra au concept, car « nous » est un concept qui renvoie à soi et à autrui. Seulement, le pauvre Gaspard, avant d'avoir pu dire « nous », il sera poignardé dans un jardin public, le jardin de Ansbach. C'était en 1833, très peu de temps après qu'il a fait son apparition, qu'il lui fait son apparition sur la place publique de Nuremberg, sur une place publique de Nuremberg. Il sera poignardé dans le jardin de Ansbach. Il meurt le surlendemain de cette agression. Et à l'endroit où il est tombé, il y a une petite plaque, une petite stèle en pierre sur laquelle est écrit « Ici, un inconnu fut tué par un inconnu ». C'est fini.